Alors, Pierre Marisset, maintenant que François Guéranger nous a donné son avis d'avocat puis de magistrat sur cette loi, vous, en tant que directeur, enfin non, délégué général de l'Institut pour la justice, et venez ici si vous voulez.
Ah bon, bon, comme vous voulez.
Voilà, vous serez mieux filmé. Et que pensez-vous de la manière dont Laurent Nunez a expliqué que la loi Retailleau était un peu mal faite et que, en ne voulant viser que le séparatisme musulman, elle ratait son objectif, qui est véritablement de faire régner un ordre totalement républicain chez tous les affreux irrédentistes qui veulent se séparer et ne pas faire partie du joyeux groupe.
Ben je pense qu'il y a plusieurs sujets. En fait, pour la faire clairement pour vos auditeurs, il y a un sujet qui est la lutte contre l'entrisme islamiste, dans lequel, donc, une idée d'en faire une loi, dans lequel il y a inséré un article qui vise à geler les avoirs de toutes les personnes que vous avez évoquées, et donc, c'est-à-dire un très grand nombre de personnes qui dépassent très largement le cadre de l'entrisme islamiste ou de l'islamisme tout court. Et cette même idée est portée par deux personnes. Premièrement, Bruno Retailleau, qui avait fait rédiger un très heureux et très bienvenu rapport sur les frères musulmans et sur l'entrisme des frères musulmans en France, qui nécessite certainement une réaction. Donc c'était à l'époque où il était ministre de l'Intérieur. Donc c'est la première proposition de loi de Bruno Retailleau. Et deuxièmement, il y a un projet de loi du gouvernement de Laurent Nunez, l'actuel ministre de l'Intérieur, ils sont en concurrence politique. C'est pas le plus intéressant de cette affaire-là, mais en tout cas, ils sont en concurrence politique sur ce sujet, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, va l'emporter, en tout cas s'il tient vraiment à aller jusqu'au bout, parce que c'est un projet de loi du gouvernement, donc il peut y aller en procédure accélérée, tandis que la proposition de loi de Bruno Retailleau a été certes votée par le Sénat en première lecture, mais il reste encore une autre lecture deux autres lectures par l'Assemblée et une autre lecture par le Sénat. Donc, si on fait une course en termes de sprint, c'est certainement le projet de loi Laurent Nunez qui devrait passer. Et le projet de loi Laurent Nunez, d'autant plus inquiétant, me semble-t-il encore plus inquiétant, non seulement parce que, bon, je pense que Bruno Retailleau, j'imagine qu'il est assez sincère, il a plutôt démontré qu'il était hostile au développement de l'islamisme en France. Laurent Nunez, on peut douter de sa détermination en vue de ses déclarations de ces derniers mois et de ces dernières semaines. Il a dit qu'il n'était pas opposé au voilement des fillettes, enfin bref. Donc Laurent Nunez est d'autant plus inquiétant qu'il a dit publiquement sur CNews jeudi dernier, que son projet de loi à lui visait très clairement à aller au-delà de l'entrisme islamiste et donc à toucher, alors lui il disait l'ultra-droite, évidemment il a envie de dire l'ultra-droite, en fait c'est pas que l'ultra-droite, ce texte permet effectivement de toucher l'ultra-droite, s'il est voté, mais il permet de toucher aussi plein de gens. Parce que, encore une fois, on en revient au flou de la loi, au flou d'un concept qui est tout sauf juridique, qui est le concept de la haine. Voilà, qu'est-ce qu'on entend par la haine ? C'est quand même assez bancal. Et donc, sur une mesure qui est décidée sans juge, même si a posteriori on peut avoir un juge, mais en fait, bien souvent, comme je vous le disais, ça prend des mois, parce que les référés ne sont pas acceptés par les tribunaux administratifs, donc ça prend des mois avant d'avoir une décision. Bien souvent, les gels des avoirs, c'est pour 6 mois, donc ça ne dure pas l'éternité, donc bien souvent, les décisions arrivent trop tard.
6 mois renouvelables.
6 mois renouvelables, absolument, mais bien souvent, quand on a la décision du tribunal administratif, c'est trop tard, le gel s'est terminé, vous avez eu le temps de perdre votre entreprise, vous avez eu le temps de déprimer, de perdre votre femme et de divorcer, c'est une atteinte très forte aux libertés individuelles. Et d'ailleurs d'autant plus forte que le gel des avoirs, ça concerne tout. C'est tous vos avoirs. C'est votre compte en banque, parce que c'est facile à bloquer. Les portefeuilles crypto, oui, j'ai lu sur Twitter, quelqu'un me disait, oui, mais les portefeuilles crypto ne sont pas concernés. Si, juridiquement, ils sont concernés. Évidemment, on va pas pouvoir, c'est comme votre billet de 20 euros dans votre portefeuille, on va pas pouvoir, l'État ne va pas arriver avec des policiers vous prendre tous vos biens.
Pas encore.
Il vous bloque vos comptes, tout ce qu'il peut bloquer, il le bloque et juridiquement, vous êtes supposé ne pas pouvoir le faire, ne pas pouvoir les utiliser. Donc c'est une mesure extrêmement attentatoire aux libertés. Et dernier point, quand vous avez ce genre de mesure-là, ça se prend au journal officiel. Donc votre nom et prénom arrivent au journal officiel et tous les établissements bancaires de France et du monde les voient. Je vous laisse imaginer, une fois que votre nom et prénom est arrivé dans le journal officiel comme gel des avoirs, est-ce que vous pensez qu'il y a une banque en France qui va bien accepter de vous réouvrir un compte bancaire ? très personnellement, j'ai eu des témoignages qui me semblent très clairement me dire que non, ça ne peut pas être le cas. Les banques ne prendront plus jamais le risque, comme elles ne prêtent pas le risque de prêter au Rassemblement National, bah, prendront-elles le risque de prêter à quelqu'un qui a vu son nom et son prénom sur le gel des avoirs? Ça semble assez improbable. Donc c'est une mesure extrêmement attentatoire aux libertés, qui peut être prise sans juge, et dont les critères et les contours sont extrêmement flous, c'est-à-dire que demain, sous ce principe et ce concept fourre-tout de haine, n'importe qui, vous savez, il y a dans ce texte que vous avez lu, la haine contre un groupe de personnes en fonction de leur identité de genre, je crois.
Oui, absolument.
Leur orientation sexuelle peut-être aussi.
Leur orientation sexuelle, oui. Leur identité de genre, ou leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation. Voilà. Mais donc, effectivement, quelqu'un qui s'identifie femme et donc fait partie de ceux qui peuvent exciper de cette loi pour dire, voilà, un tel a appelé à la haine, voire à la violence à mon encontre.
Sans crime ou délit. C'est ça aussi, on en revient au juge, mais il n'y a pas de crime ou délit qui a été commis. C'est une appréciation arbitraire du ministre. C'est extrêmement attentatoire aux libertés.
Alors, Bruno Retailleau avait pondu sa loi sur le séparatisme parce qu'il y avait un rapport sur les frères musulmans qui était sorti, donc il y a un an, sur les frères musulmans et l'islamisme politique en France, 73 pages, qui évoquaient 139 lieux de culte musulmans, c'était une menace pour la République. Retailleau pond sa loi et le camarade Nunez débarque et dit « Mais non, pas du tout, en fait... » Et il faut élargir ça à toutes les formes de haine, ne visant pas que les musulmans. Et Bruno Retailleau est très surpris. Il dit « Je m'attendais à des critiques de la gauche ». Effectivement, la gauche au Sénat a hurlé, et donc la droite était très contente de voter un texte liberticide, comme d'habitude. C'est oublié, nous dit Bruno Retailleau, l'intention du législateur, qui est un principe essentiel d'application et d'appréciation de la loi. Mais en fait, l'intention du législateur... c'est que il y a le texte de la loi, et si le juge a envie de l'interpréter, il l'interprète.
Exactement. On a parlé tout à l'heure du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous trouvez que le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, respecte l'intention du constituant? C'est-à-dire le texte, par excellence, qui gère notre vie en France, en société, du constituant lorsqu'il a rédigé la Constitution de la Ve République? Absolument pas. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que si aujourd'hui Debré et De Gaulle étaient encore là, bon, ils diraient « vous avez massacré notre texte » parce que ça n'est plus, l'interprétation est à milieu de ce qui était prévu, sans compter les nombreuses réformes constitutionnelles. Donc, évidemment, l'esprit du texte, bah oui, intentionnellement, normalement, traditionnellement, il faudrait l'esprit du législateur et l'intention du législateur, pour l'interpréter, c'est ce sur quoi devraient se baser les juges. Mais nous n'en avons aucune certitude. Et personnellement, je ne fais pas suffisamment confiance à nos magistrats, parce qu'ils ont rendu... Alors, il y a plein de magistrats, la grande majorité des magistrats sont des gens très bien. Mais je ne fais absolument pas confiance au Conseil d'État pour prendre des décisions, pour faire une jurisprudence qui aille dans le sens de la lutte uniquement contre l'entrisme islamique. Et de toute façon, le texte est clair, il n'y a pas besoin de lutter, de discuter de l'intention. J'ai notamment vu Éric Tegner du Média Frontière qui répondait à Bruno Retailleau, j'ai pas le tweet en tête, mais il disait que lui avait été spécifiquement poursuivi sur la base de textes qui avaient été votés suite aux attentats de 2015. Les attentats de 2015, ça visait pas particulièrement l'ultra-droite. Enfin, je veux dire, les législations qui a été prise.
Vous êtes sur Radio Courtoisie, donc en matière d'avertissement et de poursuite, on est ferré à glace, et avant que Frontière ne fût, Radio Courtoisie est.
Absolument, mais je veux dire que les lois qui ont été prises suite aux attentats de 2015, elles visaient le terrorisme islamiste, ça paraît assez évident. Eh bien, Éric Tegner nous disait, il faudrait qu'il en discute plus, qu'il en dise plus, mais qu'il a été poursuivi sur la base de ces textes-là qui ont été pris contre le terrorisme islamique.
Oui, où Marine Le Pen s'est fait ordonner une expertise psychologique sur la base d'une loi qui était censée réprimander les délits sexuels chez les adolescents et les enfants. Donc
l'esprit du législateur... Traditionnellement, c'est important, mais dans la réalité, c'est une porte grande ouverte à l'interprétation que veulent en faire les juges. Et bon, les juges sont ce qu'ils sont.
Les juges sont ce qu'ils sont.
Justement, ce flou, en fait, parce qu'on parle quand même de quelque chose qui est très imprécis. Vous disiez tout à l'heure, ça peut aussi toucher l'ultra-droite, et vous avez ajouté, mais aussi plein d'autres gens. En fait, c'est plein d'autres gens. Est-ce que c'est pas déjà considéré comme être de l'ultra-droite? Puisque aujourd'hui, on a l'impression que dès qu'on est en désaccord, dès qu'on on évoque une opinion légèrement différente de la bien-pensance, on est de l'ultra-droite. Est-ce que finalement, ce texte, il n'a pas volonté à tout simplement s'opposer et à dénoncer tout ce qui est en désaccord avec la bien-pensance, que je mets entre guillemets?
Ah bah, en tout cas, c'est... Je ne sonde pas les reins et les cœurs, j'ai mon avis. Je ne pense pas que Bruno Retailleau, personnellement, c'est mon avis, hein, je ne le connais pas, mais je ne pense pas qu'il a la volonté, avec un texte comme ça, de matraquer des personnes qui s'opposeraient au mariage homosexuel, par exemple, parce qu'on avait la lutte contre la haine contre l'orientation sexuelle.
Des gens se sont fait mettre en prison en 2013, parce qu'ils étaient debout devant le ministère de la Justice, quand même. Donc,
cette loi serait arrivée aujourd'hui, ou en tout cas avec un outil comme celui-ci, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. On ne sait pas du tout. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe au Royaume-Uni, où ils ont aussi d'autres mesures arbitraires que peut prendre le gouvernement, typiquement libérer de prison. Le ministère public britannique a pu libérer de prison plein de délinquants de droit commun, notamment des tueurs. Hein. Notamment, il y avait un exemple d'un mineur qui avait tué un autre jeune britannique. Ils les ont libérés pour pouvoir mettre en prison les manifestants suite aux émeutes de Liverpool d'il y a 2 ans.
Et qui n'avait tué personne.
Mais qui avait peut-être appelé à la haine. Oui. La haine, puisque... Voilà,
donc, je reprécise mon propos parce que j'ai peut-être manqué de clarté. Dans ma question, je ne visais absolument pas Bruno Retailleau. Vous avez bien fait de le préciser. Et je pense aussi qu'il n'a pas cette volonté-là. En revanche, est-ce qu'on peut s'interroger sur les dérives qu'il pourrait y avoir sur cette loi, justement?
Mais complètement.
Prenons l'exemple... En 1974, Simone Veil, la loi sur l'avortement, entre ce qu'elle a écrit et ce qu'elle voulait en 1974 et ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu un écart considérable. Est-ce que la loi de Bruno Retailleau aujourd'hui, avec ce qui pourrait en découler dans quelques semaines, quelques mois, n'aurait pas déjà un gap monumental?
Oui, c'est ce
et
que...
inquiétant.
C'est ce que je me disais, et c'est ce que je disais sur Twitter il y a quelques jours. En fait, avec une loi comme celle-là, si un dictateur était élu, ou un apprenti dictateur, un wannabe dictateur, était élu en 2027, il n'aurait même pas besoin de changer la loi pour réprimer ses opposants. C'est ça le problème. Et on nous parle d'état de droit en permanence. En permanence, Emmanuel Macron avait parlé de l'état de droit. Emmanuel Macron avait critiqué Bruno Retailleau en disant « il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'état de droit ». Oui, et ben dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est Laurent Nunez... le ministre le plus, à mon avis, le plus qui a prêté la plus forte allégeance au président de la République, qui met une loi qui va complètement à l'encontre de l'état de droit. Enfin, si l'état de droit est entendu comme le fait que le pouvoir exécutif se plie devant la loi et devant un droit sûr et certain, alors moi je suis à fond pour l'état de droit, si c'est bien ça, on n'est absolument pas dans l'état de droit avec une mesure administrative aussi floue et aussi attentatoire aux libertés.
C'est le moment d'accueillir Christophe Boutin avec nous. Bonjour Christophe, merci d'être là. Voilà, vous êtes docteur en sciences politiques, politologue. Évidemment, cette loi est fascinante en partie parce que Laurent Nunez pousse le curseur très loin, Bruno Retailleau s'offusque et a l'air d'un bonnet qui n'a pas l'air de comprendre que quand une loi est votée, elle échappe parfois comme un golem à celui qui l'a créé. Je recite Bruno Retailleau. Par ailleurs, la loi précise bien que le gel ne sera possible, donc le gel des avoirs, que pour les actes qui présentent une menace gravité. Donc une menace grave, j'ai recopié son tweet sans le corriger, et effectivement, si je me reporte toujours à cet article 4 du titre 2 de cette loi, donc titre 2, article 6.4, qui présente une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public en raison de leur rôle dans leurs actions, de leur caractère répété et de leur ampleur. Voilà. Et est-ce que véritablement cette gravité est une protection pour tous ceux qui, par hasard, diraient, comme Olivier Pouvremonti, qu'entre immigration et insécurité, il semble y avoir une corrélation, ou que la République se gouverne mal mais se défend bien, ce genre de choses?
À mon avis, oui, effectivement, le fait de mettre comme ça un certain nombre de critères permet de minimiser les facultés d'interprétation du juge dont vous avez amplement discuté tout à l'heure avec votre précédent intervenant. Je crois qu'effectivement, alors bien évidemment, la notion de gravité derrière suppose une interprétation elle-même faite par le juge. C'est le juge qui va décider si oui ou non il y a gravité. D'abord, c'est éventuellement l'autorité administrative lorsqu'elle va agir pour appliquer le texte, et ensuite c'est le juge s'il y a un recours contre la décision de l'autorité administrative. Mais avoir un certain nombre de critères supplémentaires est quand même quelque chose d'important. D'ailleurs, on le voit sur l'article premier tel qu'il était prévu, la commission sénatoriale a modifié l'article premier du projet de loi, ici je parle du projet de loi Retailleau, hein, celui dont on a connaissance, a modifié l'article premier en estimant que le concept d'atteinte au principe républicain tel qu'il était présenté était trop vague, trop flou, et qu'il fallait modifier un peu les choses. Donc revenir sur l'idée de l'entrisme tel qui est quand même qui est l'objet de la loi.
Alors justement, cet entrisme politique, c'est quelque chose dont Laurent Nunez nous dit qu'il s'agit de comportements extrêmement diffus et difficiles à caractériser.
Il a mille et une fois raison. Ce que nous dit le rapporteur sénatorial, c'est il rappelle que l'entrisme, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une stratégie concertée, autrement dit, il y a presque une sorte de complot initial, si je puis dire, qui vise à conduire un groupe, ce qui est très vague, ou une structure, ce qui là aussi est très vague, à adopter des positions qui soient des positions contraires au sacro-saint principe ou à la loi républicaine. Avec une telle définition, on est effectivement dans le flou, mais on était dans le flou déjà avec la notion de séparatisme, qui était la notion centrale du texte précédent, ni plus ni moins. Et vous évoquiez tout à l'heure, plusieurs fois, vous avez évoqué des éléments qui permettent d'incriminer ceux qui sont coupables de propos haineux divers et variés ou de porter atteinte à des communautés. Je rappelle que ce sont des éléments qui se font déjà, par contre, partie de notre ordonnancement juridique, qui ont été intégrés dans le Code de la sécurité intérieure et qui sont d'ailleurs amplement utilisés.
Alors, dans le projet Nunez, enfin dans le projet Retailleau, il y a plein de choses. Dans le projet Nunez, Laurent Nunez dit qu'on peut aller encore plus loin puisque il y a un huitième critère qu'il veut mettre en place, qui lui permettrait, d'aller chercher ceux qui ne sont pas suspects de séparatisme, mais les groupuscules qui provoquent à la discrimination, à la haine et à la violence, mais aussi toutes les structures qui incitent à des agissements violents et ont pour vocation d'attenter à la République. Alors, inciter à des agissements violents, par exemple, quand Bali Bagayoko explique que si Marine Le Pen ou Jordan Bardella sont élus, ils sont peut-être légitimes institutionnels, mais ils ne sont pas légitimes d'un point de vue véritablement démocratique, autrement dit, du point de vue des mélenchonistes, qui sont le seul vrai peuple, et qu'il dit qu'il y aura peut-être évidemment des heurts, et que Manuel Bompard explique ben, on espère que tout ça se résoudra sans violence. Est-ce qu'il tomberait sous le coup de la loi Nunez?
Absolument pas.
Ah
Manuel
zut!
Bompard, non, puisque justement, Manuel Bompard explique qu'il faudrait éviter la violence. Quant au maire de Saint-Denis, il décrit une situation qui pourrait se passer. Il n'appelle pas à cette situation, ou du moins, il dit qu'elle pourrait être favorable, qu'elle permettrait peut-être de sauver la République, que les grandes révolutions ont été importantes pour faire évoluer les choses en France, que tout s'est fait par des révolutions. Mais en tant que tel, il n'appelle pas à une manifestation violente.
Alors, malgré tout, donc la gauche est très opposée au texte de Retailleau, parce qu'elle voit bien que c'est le séparatisme musulman, et donc on sent que l'islamo-gauchisme a de beaux jours devant lui. Elle le dit en mettant le point quand même, le doigt sur un point important, c'est-à-dire là, le juge est éliminé, en fait. Et c'est l'administration qui prend le pas sur le juge, puisque donc c'est les deux ministères qui conjointement décident ce gel des avoirs, et c'est le préfet qui pourrait faire en sorte que ces avoirs soient gelés. Et même si je ne m'abuse, enfin si je suis en tout cas l'analyse de Roger Su, socio-économiste, le projet de loi va plus loin et dispose que le préfet pourra désormais se substituer aux élus pour récupérer directement la dite subvention, autrement dit les subventions qui auraient été donner aux associations jugées, pécamineuses.
Alors, tous ces éléments existent déjà. La loi sur le séparatisme et l'application de la loi sur le séparatisme a permis de récupérer ou d'empêcher un certain nombre de subventions. Par ailleurs, la loi de 36 sur la dissolution des groupes violents, cette loi de 36, est appliquée par le pouvoir administratif. Je vous rappelle cependant que dans tous les cas de figure, l'application du pouvoir administratif se fait sous contrôle du juge. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, la jeune garde n'a pas été satisfaite du projet de dissolution. Elle a attaqué devant le juge le projet de dissolution qui était présenté par le ministère. C'est au juge, finalement, de donner une réponse lorsqu'il y a un contentieux qui est engagé par ceux qui sont les victimes des choix, parfois légitimes, qui semblent parfois moins légitimes, effectivement, du pouvoir administratif.
Alors, Christophe Boutin, on a l'impression que pour vous, cette loi n'est pas inquiétante d'une certaine manière.
Pas du tout. Non, cette loi est inquiétante parce qu'on a un certain nombre de flous et que quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup, comme disait une célèbre poétesse. Mais effectivement, il y a un problème. Dès que j'ai quelque chose qui permet une large marge d'interprétation, je peux avoir effectivement des questions à poser. Je me permets de rappeler que la loi de 36, par exemple, sur la dissolution des groupes de combat, la loi de 36, depuis 36, on a eu à peu près 145 ou 150 dissolutions. Un cinquième ont été faites depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Et que sur ces dissolutions, loi de 36, si effectivement, initialement, en se basant d'ailleurs sur les nouveaux textes, sur le séparatisme et ainsi de suite, et sur l'appel à la haine, si on avait commencé effectivement à sanctionner un certain nombre d'associations ou de groupes qui étaient en lien avec la mouvance islamiste, ces derniers temps, ce sont les groupes identitaires qui ont été tout aussi largement visés. Je me permets de rappeler que sur cette base, on a pu, cette base de la loi sur le séparatisme, le Conseil d'État a pu sanctionner une distribution de soupe aux cochons parce que la soupe aux cochons, c'était quelque chose qui était discriminatoire et discriminant. Donc, je suis comme vous, peut-être, et comme beaucoup, très un peu dubitatif, pour ne pas dire inquiet, sur les capacités que peut donner un tel texte, en raison du flou des notions qui sont évoquées, à un juge qui, derrière, va s'en servir pour peut-être tout autre chose que l'objet de la loi. Vous évoquiez tout à l'heure, à très juste titre, avec un intervenant, le hiatus qu'il y a entre l'objectif du législateur et ce qu'en fait le juge. Et bien évidemment, votre intervenant précédent évoquait à très juste titre le Conseil constitutionnel et l'interprétation qu'il fait du texte constitutionnel qui est effectivement relativement loin de ce que Michel Debré ou Charles de Gaulle avaient pu penser faire. Voilà, c'est clair et net. Je doute que lorsqu'on a mis liberté, égalité et fraternité dans la Constitution de 58, je doute que l'on ait pensé que ça contribuerait et aboutirait à permettre à M. Héroux d'aider des personnes présentes sur le sol français en totale illégalité. Mais voilà, le juge ensuite fait absolument ce qu'il veut. Donc là, quand bien même, effectivement, y a-t-il une différence entre les deux textes, quand bien même le texte de M. Nunez ne devrait pas être moins centré sur l'entrisme islamiste, alors que celui de M. Retailleau cherche à être centré sur cet objectif prioritaire, derrière, quand le juge en fera ce qu'il veut.
Alors, juste, avant que vous ne posiez votre question, cher
Lucien.
Lucien, merci. Juste une réaction d'un auditeur. Ce n'est pas une atteinte très forte aux libertés, c'est une mise à mort sociale. Avez-vous vu le film Brasil, inspiré du 84 d'Orwell ? On y est en plein. Croyez-vous que l'administration sera remplie de saints soucieux de justice ou pourrait-elle être au contraire un instrument de tyrannie au service d'intérêts politiques, de réseaux, même privés ? Et ne faudrait-il pas rappeler à certains le sort de Robespierre ? Voilà. Qu'en pensez-vous, Pierre-Marie Sèvres ?
Rien que ça.
Bah, disons, on est dans une... Il y a aussi tout un contexte, moi, que je trouve inquiétant. Quand on voit le projet de labellisation des médias, qu'Emmanuel Macron avait évoqué l'année dernière, quand on voit le projet de vérification de l'identité de tous les utilisateurs des réseaux sociaux, qui sont actuellement discutés au Parlement européen, ou en tout cas par la Commission européenne. Ce contexte-là, moi, me pousse à avoir une lecture beaucoup plus alarmiste, qu'effectivement, je pense que si cette proposition de loi avait été votée dans une France plus apaisée il y a une trentaine d'années, on aurait pu plus compter sur le sursaut, ou en tout cas la morale et la rectitude et la vertu de ceux qui en feront usage. Donc c'est tout ce contexte-là qui m'inquiète. Et donc d'ailleurs, nous avons publié il y a quelques minutes dans le Figaro une tribune collective. Nous sommes 63 juristes à avoir signé cette tribune qui appelle à la plus grande vigilance, non pas sur le projet de loi contre l'entrisme islamiste et cette intention-là qui est bonne. Nous sommes bien conscients et heureusement qu'il y a un problème d'entrisme islamiste et de terrorisme islamiste et d'infiltration islamiste et tout ce qu'on veut. Mais en revanche, il y a cet article-là qu'il faudrait que nos députés suppriment. C'est tout. Ça ne veut pas dire que l'ensemble du projet de loi est à jeter à la poubelle. Au contraire. Voilà en ce qui concerne la proposition de loi de Bruno Retailleau, mais en ce qui concerne le projet de loi du gouvernement. Voyant les intentions que Laurent Nunez a affichées, là, ça m'inquiète clairement. Parce que là, l'intention du législateur, on ne pourra plus du tout la sauvegarder ou s'accrocher à ça pour espérer que ça ne soit pas utilisé contre des adversaires politiques.
Lucien Rabouille.
Si vous avez fini sur les questions de droit, de procédure, etc. Cher Christophe Boutin, je m'adresse plutôt aux politologues et aux co-auteurs du dictionnaire, notamment du progressisme et du conservatisme, aux éditions du Cerf. Vous parliez effectivement de l'interdiction de la soupe au cochon. Certains appellent à l'interdiction du banquet gaulois. Il y a ce durcissement juridique autour de certains responsables politiques. Il y a ces dissolutions d'associations malpensantes et ces intimidations portées sur les médias, qui Frontières, qui Radio Courtoisie. Il y a effectivement ce qu'évoquait Pierre-Marie Sèvres concernant désormais la construction d'un arsenal législatif. Enfin bref, on voit un État et un pouvoir qui se durcit. Dans votre dictionnaire, qui est paru il y a à peu près 4 ans, en 2020 ou 2021 aux éditions du Cerf, vous expliquez que le progressisme, depuis sa frêle jeunesse contestatrice, avait un peu vieilli, et que désormais il avait pris un tour très notable, très bourgeois, très gauche caviar, et qu'en vieillissant, peut-être il s'était durci. Est-ce que d'ailleurs toutes ces initiatives, cette loi que vous évoquiez, que vous aviez brillamment l'un et l'autre démonté, ces faits divers également, ces manœuvres d'intimidation, ces procès à répétition, on ne voit pas se construire un nouveau modèle politique en Europe occidentale, en Europe de l'Ouest, qui serait un progressisme autoritaire ? Et qui quelque part recyclerait ce que les Américains rejettent d'élection en élection, une sorte de roue de secours du Parti démocrate américain, et qui inventerait cet oxymore libéralisme liberticide, progressisme autoritaire, qui désormais s'abrite derrière le droit, puisqu'il ne veut pas encore dire son nom, il ne veut pas encore se penser comme tel et s'affirmer comme tel, mais qui quand même construit, à défaut d'un corpus idéologique, du moins un vrai pouvoir de répression.
Alors j'en suis pleinement d'accord. Si vous voulez, la tendance oligarchique a toujours existé. Soyons clairs, il y a toujours une division. Reprenez la distinction entre Rousseau et Sieyès sur le sujet. Reprenez la manière dont Sieyès explique que seul le régime représentatif est valable parce que le peuple n'est pas capable de voter correctement et on a vraiment cette dérive permanente. Cette oligarchie qui est au pouvoir, qui tient le pouvoir médiatique, celle que Curtis Yarvin appelle la cathédrale, vous voyez, c'est ce mélange médiatique, universitaire, politique, cette oligarchie, elle voit bien actuellement qu'elle est particulièrement contestée, et étant particulièrement contestée, étant menacée de perdre le pouvoir, très logiquement, elle durcit tous les éléments juridiques, entre autres, dont elle peut disposer pour ne pas perdre le pouvoir. L'extrême centre, pour reprendre une formule qui commence à courir de plus en plus, l'extrême centre ici apparaît aussi liberticide que peut l'être n'importe quel extrémiste de droite ou de gauche, et peut-être même plus liberticide que certains de ces prétendus extrémismes. Je crois effectivement que, et ça vient d'être dit à l'instant, c'est un contexte général. C'est un contexte général qui touche l'interdiction de diffusion des idées, qui touche les sanctions multiples à l'encontre des contrevenants qui sont repris par la police de la pensée, qui vont de la mort sociale à l'interdiction de disposer d'un compte bancaire, à l'exclusion de certaines structures quand ce ne sont pas directement les condamnations pénales. Le système, encore une fois, on le sait, gouverne peut-être mal parfois, mais se défend bien. Et cette oligarchie se défend parfaitement.
Et finalement, par rapport à notre discussion sur le droit, le caractère légal ou non de la loi, la procédure, tout ça n'est pas du vent, finalement, pour habiller un modèle politique dystopique, comme le disait l'auditeur quand il parlait, ou quand vous parliez de la cathédrale, justement, qui est encore terrifiant, d'ailleurs, à imaginer. Une espèce de libéralisme liberticide, un truc qui, au nom de la liberté, veut tout interdire, qui jette en pâture des gens pour lutter contre la haine. Est-ce que toutes ces questions de droit, de procédure, ne sont pas, finalement, qu'un habillage cosmétique pour masquer un vrai projet politique et idéologique ?
Mais le droit n'est jamais que l'habillage d'un projet politique. Le droit n'existe pas en tant que tel. Le droit est quelque chose qui intervient dans une société pour mettre en œuvre des choix de société, des choix pour la vie en commun, des choix pour réguler le bien commun, pour réguler le vivre ensemble, comme dirait Yann Arthus Bertrand. Et le droit ici n'existe pas sans cela. Le droit, c'est la traduction pure et simple du politique. Simplement, cette traduction du politique, elle est ici captée par une caste qui refuse, alors que nous sommes censément un système démocratique, une caste qui refuse d'adapter le droit aux demandes de la population et qui, en usant du droit, crée son propre monde à rebours des attentes de la population. Mais le droit n'est toujours que l'habillage des choix politiques.
C'est exactement ce que vous dites dans votre tribune, Pierre-Marie Sèvres, que vous signez d'ailleurs avec un nombre de gens incroyable. La moitié est passée sur Radio Courtoisie, vous êtes en très bonne compagnie. Si demain un personnage autoritaire remportait l'élection présidentielle, cette loi pourrait être utilisée comme une véritable lettre de cachet moderne pour mettre à mort économiquement toute personne ou structure politiquement active dans l'opposition à la politique gouvernementale au sens large, et sur des thèmes aussi variés et fondamentaux que la politique migratoire, la lutte contre l'islamisme ou encore la théorie du genre. On voit bien effectivement que essentialiser un adversaire tombe sous le coup de cette loi contre la haine, etc. Et que quand on parle d'agissement, il ne s'agit pas juste de rentrer dans Paris en tirant des tirs de mortier ou saccager une exposition d'Arthus Bertrand.
Ah bah ça, c'est pas de la haine.
Il s'agit juste de manifester avec une banderole comme les filles de Némésis.
Oui, on peut le penser. Mais encore, tout le problème est là. C'est qu'on peut le penser, mais on n'en est pas certain. Et donc, on en revient à ce problème du flou de cette loi, où il y aurait visiblement, selon en tout cas le principal auteur de la proposition de loi, en tout cas, une différence entre l'intention, ou en tout cas, il y a un petit flottement entre l'intention du législateur et le texte lui-même. Ça participe de ce flou. Et encore une fois, le flou, c'est donner un arbitraire à ceux qui ont le pouvoir de décider. Et en l'occurrence, quel pouvoir de décider ? Les ministres concernés au premier chef, ministre de l'économie et de l'intérieur, et voir éventuellement les juges. Et à chaque fois, le flou, c'est donner ce pouvoir, c'est préparer le terrain de l'arbitraire. Donc c'est encore une fois le contraire de l'état de droit.
Christophe Boutin, lorsque on voit qu'une partie de la droite dite nationale se sent inquiète et qu'une partie de la gauche particulièrement progressiste se sent, elle, outrée, est-ce que on peut penser que les deux ont raison de s'inquiéter et que le pouvoir macroniste, avec son bras armé Nunez, va à la fois frapper les associations cultuelles musulmanes qui veulent ériger des mosquées salafistes et ce qui resterait d'identitaires qui n'auraient pas été encore dissous ? Ou est-ce qu'au contraire...
Les textes qui existent déjà, notamment le fameux contrat républicain que les associations doivent signer, ces textes ont permis de sanctionner des associations qui voulaient lutter contre les bassines, vous savez, ces grands réservoirs d'eau, ou lutter contre des déchets radioactifs. Ça a permis aussi de sanctionner des identitaires. Donc on voit ici que tout ce qui ne convient pas finalement à la doxa républicaine, encore faudrait-il savoir ce qu'est la doxa républicaine, ce que sont les principes de la République et ainsi de suite, mais tout ce qui ne correspond pas à cela est systématiquement sanctionné, avec parfois des réserves d'ailleurs assez étonnantes de la part des juges. Par exemple, le texte sur le contrat républicain prévoit bien qu'il ne doit pas y avoir atteinte au symbole de la République, mais le juge estime que lorsque c'est une œuvre d'art, on peut très bien porter atteinte au symbole de la République. C'est le plus grave à ce moment-là. Alors, je sais pas, peut-être qu'il considérait que le saccage de l'exposition Yanatus Bertrand est une œuvre d'art en elle-même, je ne sais pas, mais...
Donc, c'est une hypothèse de Laurent Firaud, en fait, qui propose de saccager plusieurs expositions, mais en tant que mouvement artistique. Voilà.
Ben voilà, c'est de l'art. Donc, mais le Conseil d'État a validé ça pour l'atteinte au symbole de la République. Il a considéré que si c'était une œuvre d'art, dans ce cas-là, on pouvait porter atteinte légitimement au symbole de la République. Reste à déterminer quel est l'artiste.
Pierre-Marie Sève, est-ce qu'on peut légitimement penser que se constituer en guilde des artistes de droite permettra au ministère et aux juges de nous épargner? Et si nous décidons de devenir des situationnistes professionnels avec des happenings et ce genre de choses, ça y est, nous allons pouvoir défendre toutes nos idées sous la double bannière de l'humour comme un humoriste de Radio Nova et de l'art comme n'importe quel pédophile subventionné.
Oui, de toute façon, l'humour est le meilleur adversaire des États totalitaires, donc je ne dis pas qu'on est devant un État totalitaire, mais on voit bien, enfin en tout cas sur Internet, il me semble que, mais c'est une appréciation très personnelle, je vous le concède, il me semble que les humoristes de droite sont plus drôles que les humoristes de gauche. Voilà, peut-être parce qu'on les a trop entendus, les humoristes de gauche, puis l'humour ça vieillit très mal, quand on entend 10 fois la même blague, on rigole un peu moins. Donc c'est peut-être la solution, effectivement, il va falloir passer par l'humour pour s'opposer, pour faire progresser la liberté, on va dire.
Et pourtant, c'est quelque chose qui existe déjà. Mais on a toujours les humoristes de gauche en face qui s'y opposent. Il y avait un journaliste de Frontière, alors je suis désolée, je n'ai pas retenu son nom, mais qui a fait une petite vidéo sur les réseaux sociaux en répondant à un humoriste, justement chroniqueur de gauche de Radio Nova, qui riait d'une personnalité politique en lui souhaitant d'avoir un cancer et de se faire renverser par une voiture.
Charmant. Mais quand c'est pas drôle, il faut aller dans l'outrance.
Mais voilà, exactement. Et donc ce journaliste de Frontières répondait en disant « Alors, j'ai pas une particulière sympathie pour cette personnalité. » Je suis désolée, vraiment, ma mémoire fait défaut entre le nom du journaliste et de la personnalité politique. Mais donc, j'ai pas beaucoup de sympathie, mais en revanche, je trouve ça honteux.
Gabriel Attal et Sophie Aram.
C'était tout à fait, merci. Voilà, exactement. Et quand il s'agissait de rire de la mort de Naël, par exemple, il y a 2 ans, les journalistes de Radio Nova et les humoristes de France Inter, on ne les entendait pas beaucoup, justement. Donc c'est un peu comme ce flou, finalement. C'est toujours deux poids, deux mesures.
Serait-il biaisé ?
Finalement, est-ce que l'humour est aussi biaisé à gauche ?
Ah bah, assez évident, effectivement. De ce que j'en vois, en tout cas, je n'ai pas fait d'études en double aveugle pour savoir si les sketchs de France Info et Radio Nova étaient biaisés à gauche, mais bon, peut-être une idée de nouvelle commission d'enquête.
À réfléchir un chapitre et à proposer, pourquoi pas.
Voilà, à creuser dans la commission d'enquête.
Christophe Boutin, on se retrouve avec une loi évidemment liberticide. Pierre-Marie Sève a rappelé tout à l'heure qu'elle s'insérait dans une série de lois liberticides assez impressionnantes. Vous avez vous-même rappelé une assez impressionnante, d'autant qu'elles sont de plus en plus nombreuses sous 2 quinquennats dirigés avec le même président. Vous avez rappelé vous-même le nombre de dissolutions prononcées. Voilà, on a plus dissous sous Macron que depuis 1936, de même que sous De Gaulle, il y avait eu plus de problèmes de censure que sous tout le règne de Louis XIV, et pourtant ça a duré moins longtemps, et ça a sans doute produit de moins heureux effets. On a en tête aussi le tweet de Sarah Knafo, qui dressait justement la liste de toutes les lois liberticides, et on est véritablement en train de lutter contre le séparatisme, ou comme d'habitude, de même qu'il y a un flou avec ce mot haine, de même séparatisme, entrisme, et toutes ces notions qui, de l'aveu même de Laurent Nunez, sont diffuses et difficiles à caractériser, ne sont-elles pas, là aussi, une ultime loi liberticide qui, au lieu de prendre prétexte des pédophiles, de la protection de l'enfance, de la nécessité d'un consentement éclairé en matière de majorité sexuelle, on n'est pas en train d'avancer masqué avec une loi qui, une fois de plus, vise en fait ni la droite, ni la gauche, ni les musulmans, ni les chrétiens, mais l'intégralité des citoyens qui doivent être rangés comme un seul homme sous la férule du souverain républicain.
Oui, absolument. Regardez la loi sur le séparatisme qui existait. La loi sur le séparatisme, notamment dans l'aspect scolaire, scolarité à la maison, a concerné sans doute effectivement le monde musulman, mais a concerné aussi bien d'autres écoles à la maison qui étaient faites par tout autre chose que des musulmans. Donc un texte, de toute façon, un texte, c'est encore une fois son interprétation qui est importante. Et le texte ici, par le caractère flou, mais parce qu'on multiplie les textes, on essaye d'en faire de plus en plus, on est dans une sorte de fuite en avant, et cette fuite en avant est quelque chose qui, petit à petit, vient encadrer les populations et porter atteinte à un certain nombre de libertés. C'est bien certain.
Alors, Pierre-Marie Sève et Marie-Charlotte Dubourblanc doivent nous quitter, alors non pas ensemble, simultanément, d'une manière concomitante. Merci beaucoup, Pierre-Marie Sève, d'avoir été avec nous.
Merci.
Je rappelle
à
tous les auditeurs de Radio Courtoisie cette très bonne tribune qui vient de paraître dans le Figaro et qui permet effectivement de montrer que certains juristes...
63.
Il y a 63 signataires et vient vous rejoindre qui vous voulez. Dans sa formulation actuelle, la loi sur l'entrisme islamiste recèle un grave danger pour les libertés publiques. Voilà. Tribune collective publiée il y a un peu plus d'une demi-heure sur le compte du Figaro. Merci beaucoup Pierre-Marie Sève et à bientôt.
Merci à vous. À la prochaine.
Lucien Rabouille, vous aviez une question, je crois.
Ouais, on est sur nous.
À défaut que vous ayez une question, j'en ai une. Deux auditeurs de Radio Courtoisie nous font parvenir un message en nous disant qu'en fait, cette loi-là leur paraît directement dans la continuité en fait, de l'enrégimentement social qui a eu lieu pendant le Covid. Cette loi est le continuum mis en place par la suspension des soignants-pompiers qui ont refusé la vaccination Covid, coupure de toute ressource. Nous passons maintenant à la spoliation. Et un autre dit, le refus d'un vaccin justifié par une suspicion de haine des dirigeants des autorités sanitaires, ce refus entraînant une mise en danger d'autrui et donc contraire aux valeurs de la République, mérite donc une confiscation totale des biens, une privation des libertés élémentaires. On sent vraiment que le côté pas d'ennemis pour les ennemis de la liberté est très très poussé chez Macron.
Écoutez, je lisais récemment un éditorial qui rappelait le caractère emmerdeur de Emmanuel Macron qui a voulu, je rappelle, emmerder les non-vaccinés. Et l'auteur de l'éditorial avait, de ce côté-là, tout à fait raison. Il y a de toute façon une volonté de contrôle. Je ne sais pas si elle est personnelle à Emmanuel Macron. Je crois encore une fois que globalement, on a un système qui est un système qui est à la limite du collapsus, qui, sur un certain nombre de plans, est menacé de s'effondrer devant la dette, devant une immigration incontrôlée, devant une société qui est de plus en plus conflictuelle et de plus en plus divisée. Et partant de là, effectivement, ce système essaye de perdurer. On ne peut pas... si vous voulez, c'est toujours la question qu'on se pose par rapport au pouvoir. Je vous rappelle la grande formule de Montesquieu qui est que le pouvoir, en fait, doit être arrêté par le pouvoir, qu'il n'y a pas d'auto-limitation du pouvoir. Cette oligarchie ne va pas d'un seul coup estimer qu'il est bon qu'elle arrête ses dérives ou ses captations de pouvoir et qu'elle va à maintenant partager avec d'autres. Elle est lancée dans ce progressisme, effectivement, Lucien Rabouille avait raison, dans ce progressisme qui devient un progressisme de plus en plus autoritaire. Mais c'est logique, c'est la logique même de toute institution de ce type-là, d'éliminer petit à petit les contre-pouvoirs.
D'ailleurs, on pourrait ironiser sur la réprobation que représente cette loi. Et par exemple, il est question d'entrisme. On rappellerait, avec fort à propos, le passé trotskiste-lambertiste de Jean-Luc Mélenchon, dont la seule pratique était justement de faire précisément qui à Force ouvrière, qui au Parti socialiste, ces méthodes d'infiltration qui faisaient leur marque de fabrique. On voit quand même que cette loi choque les consciences. Richard de Sèze me transmettait l'article d'un nommé Roger Su, par exemple, professeur de socio-économique à Paris Cité, donc pas forcément le type même de l'affreux réactionnaire,
non,
cher Richard.
Non, je pense que c'est voilà. Une conscience.
Et qui nous disait que, enfin, quand même, au-delà du projet politique que l'on voit sous-jacent derrière, on a aussi l'impression d'un gouvernement aux abois. On a aussi l'impression d'un gouvernement qui cherche justement à donner l'illusion de l'ordre, alors que l'ordre se défait sous nos pas. C'est-à-dire que on voit un gouvernement qui peine à faire appliquer ses propres recommandations, on voit un ordre public qui n'est pas forcément maintenu, et qui donne un peu cette impression d'agitation frénétique, comme pour justifier l'existence d'un État et d'une autorité qui n'a pas forcément, enfin dont l'évidence ne saute pas aux yeux. Est-ce qu'il n'y a pas derrière cette loi une espèce de symptôme d'une poule qui court sans tête et d'un État qui ne saurait plus tellement où il va et qui se serait mêlé dans une espèce d'inflation législative pour justifier sa propre existence ?
Alors, vous avez deux éléments conjoints que je crois qu'on peut évoquer. Le premier, c'est une oligarchie aux abois qui a besoin de ces textes pour se préserver oui. des attaques qui pourraient être faites contre elle et qui veut avoir des garanties juridiques pour sanctionner tout ce qui toutes les têtes couper toutes les têtes qui dépassent, sanctionner tous les propos qui pourraient aller à l'encontre de ce qu'elle de sa doxa, de cette grande doxa. Mais c'est valable pour la France, on retrouve la même chose en Grande-Bretagne, l'Union européenne est dans la course, voilà, c'est pas quelque chose qui est limité à l'action d'Emmanuel Macron. Le deuxième élément, il ne faut pas oublier que nous avons une administration pléthorique qui a été notamment faite en recrutant de jeunes gens très, très sympathiques, je n'ai rien contre eux, avec des diplômes eux-mêmes de qualité, mais sur des bullshit jobs, c'est-à-dire des postes où il n'y a strictement rien à faire. Et quand vous mettez un fonctionnaire à ne rien faire, vous avez deux solutions, la bonne et la mauvaise, c'est comme toujours. La bonne, c'est dans laquelle le fonctionnaire ne fait rien et se contente d'aller prendre son café entre 10h et midi et de repartir à 15h. C'est la bonne solution. La mauvaise, le fonctionnaire éprouve le besoin d'exister et quand un administratif a besoin d'exister, il produit de la norme. Et donc, on a cette avalanche de normes parce que le système, si vous voulez, c'est un peu comme, je dirais, le hamster qui court dans sa cage et dans sa roue. Le système produit de la norme comme ça, vous voyez, pour exister. Donc, il y a les deux côtés qui se conjuguent. Une administration en roue libre et une oligarchie qui veut se préserver.
Absolument. Et finalement, c'est la chicane qui l'emporte. Parce que comme vous l'avez dit avec beaucoup d'esprit, je pense que les auditeurs y seront sensibles. On a effectivement cet État qui finalement parfois justifie sa propre existence, tellement la fuite en avant sociétale et la fuite en avant de création d'emplois. D'ailleurs, c'est une évolution qu'on retrouve ici ou là. Alors maintenant, pour ne pas désespérer les auditeurs, on voit s'installer pas à pas ce système très répressif, c'est arbitraire, ces consciences qui se réveillent. Puis on se demande comment y résister. Donc on a l'Institut pour la justice, on a ce constat que l'on fait, qui est peut-être sombre, mais qui du moins est réaliste. Et il y a la voie électorale, mais on voit elle-même que la voie électorale semble de plus en plus bouchée. Alors finalement, Donald Trump a réussi aux États-Unis à prendre le système juridique par lui-même en nommant des juges qui lui étaient favorables à la Cour suprême. Donc il y a cette idée que l'État de droit pourrait être, à force de subversion, à force d'infiltration, à force d'entrisme, même si maintenant c'est interdit par la loi, devenir l'État de droite et non plus l'État de droit avec des juges qui pourraient avoir une interprétation, pourquoi pas, conservatrice, après tout. Puisque, ma foi, on a vu que les déclarations des droits de l'homme, comme le Bill of Rights américain, on pouvait lui faire dire absolument ce qu'on voulait. Et puis, il y a peut-être l'idée, je ne sais pas, d'inertie, de résistance. Enfin, on voit mal ce qui, face à ce Moloch de progressisme autoritaire, pour reprendre donc l'expression qui pourrait désormais être consacrée, on voit mal exactement ce qui pourrait lui résister ou lui faire échec.
Je dirais volontiers, nous sommes en train d'en parler sur une radio libre qui émet en France. C'est déjà un premier élément rassurant tant que Radio Courtoisie fonctionne. On peut rappeler ici l'importance de la liberté d'expression telle qu'elle a été défendue par des auteurs aussi peu suspects d'extrémisme qu'Alexis de Tocqueville ou John Stuart Mill. Toute l'école libérale du 19e, qu'elle soit française ou anglo-saxonne, a été particulièrement attentive à cela, et pour l'instant, il y a encore une liberté d'expression. Vous évoquiez les élections. Les élections sont encore libres, et il est encore permis de voter pour qui l'on veut, si tant est que qui l'on veut puisse se présenter, ce qui est une autre question, oui. C'est parfois récurrente. Mais il y a donc, nous ne sommes pas véritablement dans un état totalitaire. Nous sommes dans une menace d'étouffement, si vous voulez, le système ne détruit pas. C'est ce que disait très bien Tocqueville lorsqu'à la fin de la deuxième démocratie en Amérique, le deuxième volume, il décrit ce système totalitaire qu'il voit naître et il dit c'est un système qui ne pousse pas à faire quelque chose, qui pousse à ne rien faire. Il étouffe. Il éteint, il hébète, dit Tocqueville. Et voilà, c'est ce système qui, effectivement, c'est... Mais après tout, Benjamin Constant nous mettait en garde dans La liberté des anciens et des modernes, en nous disant, nous les modernes, nous sommes occupés à notre petit bonheur privé, nous oublions la nécessité d'agir politiquement, nous oublions qu'il faut faire quelque chose. Finalement, on retrouve toujours cette vraie question. Ce sont des choix personnels. Il y a un moment où, face au mensonge, face à l'erreur, est-ce que je prends position ou est-ce que je ne prends pas position? Et je crois qu'actuellement, d'ailleurs, curieusement, je le dis, de droite comme de gauche, il y a des gens qui prennent position contre ce qui vient, ce qui se met en place, contre cet édredon qui entend étouffer un certain nombre de libertés.
Pardonnez-moi, Lucien Rabouille, j'ai une question hyper technique à poser à Christophe Boutin, qui est en fait, entrisme et séparatisme donc sont deux mots qui rentrent dans le cadre législatif. C'était auparavant, effectivement, entrisme, une tactique politique, séparatisme, une manière de qualifier une action sociale ou une idéologie d'un groupe par rapport à un autre groupe. Je me suis rendu compte que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, ça existe, la CNCTR, organisme indépendant qui délivre un avis consultatif sur toutes les demandes émanant chaque jour des services de renseignement pour collecter des informations par des moyens techniques. Autrement dit, c'est eux qui permettent de mettre sur écoute ou pas, de surveiller ou non, dit... Nous ne retenons pas la même définition que le ministère de l'Intérieur, donc Laurent Nunez, et les services de renseignement sur les notions de séparatisme et d'entrisme. Et donc, l'État lui-même met dans le corps de la loi des notions qui sont disputées au sein de l'État. C'est-à-dire, le Conseil constitutionnel, sur lequel s'appuie la CNCTR, a des définitions du séparatisme et de l'entrisme qui ne sont pas les définitions du ministère de l'Intérieur. Est-ce que ça rajoute du flou au flou ?
Non, ça apporte plutôt des précisions, parce que sur le séparatisme, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a examiné le projet de loi, a effectivement émis un certain nombre de réserves, a éliminé certains points. Bref, il a, je dirais pas redéfini le texte du législateur, mais il a contribué effectivement à une meilleure définition. Pour le Conseil constitutionnel, par exemple, il y avait la notion de trouble grave à l'ordre public. Il a repris des éléments par rapport, il a ajouté des notions de gravité, il a précisé les notions de gravité. Donc, effectivement, le problème, c'est que le séparatisme et l'entrisme sont, j'entends bien, des notions très vagues. Et que le Conseil constitutionnel ne reprend pas nécessairement l'intention du législateur dans sa décision, lorsqu'il va donner sa propre interprétation des termes, et que, par contre, autant le ministre ici peut proposer une nouvelle définition, autant l'organisme que vous évoquez, lui, est absolument tenu par l'interprétation qui a été faite du terme par le Conseil constitutionnel, puisque la décision du Conseil constitutionnel s'impose absolument à tous les organes de l'État, y compris à celui-là.
Lucien Rabouille.
Effectivement, Christophe Boutin citait avec fort à propos notre compatriote normand, cotentinais, même Alexis de Tocqueville, qui croyait beaucoup dans la décision individuelle, par rapport justement à la décision collective, et qui craignait que la décision collective n'étouffe toutes les volontés individuelles. Et il avait construit cette cité idéale, tome 2, tome 3 de la démocratie en Amérique, où la volonté collective, on se pâmait à l'époque encore devant la volonté générale, eh bien, en cas de tentative autoritaire, et d'ailleurs pourquoi pas, à l'époque le souhait de la majorité, on avait quelques exemples à l'esprit, au début du 19e, pouvait être autoritaire, aurait pu construire ces espèces de contre-pouvoirs. Alexis Tocqueville réserve des pages, par exemple, où il érige les légistes, les juristes, comme étant une nouvelle aristocratie, qui aurait donc ce pouvoir de censure, ce pouvoir de contrainte, ce pouvoir de freiner le poids de la majorité. Est-ce que finalement la situation n'a pas été inversée? Ça pourrait être d'ailleurs la question finale. Est-ce que cet idéal qu'avait construit Alexis Tocqueville d'une démocratie qui serait limitée par des contre-pouvoirs, par des pouvoirs de censure, par des pouvoirs de légistes, est-ce que les limites, les contre-pouvoirs ne sont pas devenus eux-mêmes le pouvoir? Est-ce qu'on n'est pas passé d'une justice, d'une presse, de corps intermédiaires muselés à muselants, tout simplement, par un retournement singulier de situation?
Alors, premier élément, Alexis de Tocqueville, certes content il est, mais du mauvais côté du bon tournant.
C'est un tabisme bourgeois que les éditeurs ne peuvent pas forcément comprendre.
Alexis de Tocqueville, donc, était juge, je le rappelle. Il était magistrat, donc il parlait un petit peu, il prêchait pour sa paroisse. Deuxièmement, on s'est longtemps félicité du pouvoir d'amortissement des juges, y compris du Conseil constitutionnel. Rappelez-vous le débat qui a eu lieu, enfin vous étiez trop jeune pour le connaître, mais le débat qui a eu lieu entre la période de nationalisation de 81 et de dénationalisation de 86, où on disait, voilà, le juge constitutionnel, par sa jurisprudence, a amorti l'effet de cette valse droite, enfin gauche d'abord en 80, droite en 86, il l'a amorti avec, en tempérant justement les ces choix qui pouvaient être faits par des majorités opposées. Il y a un débat fondamental là-dessus, parce que je vous rappelle ce que disait Paul Quillès, qui disait à un moment, il faut pas se contenter de faire comme Robespierre et de dire il faut que les têtes tombent, il faut dire lesquelles et quand. Et Quillès, on lui a beaucoup reproché cette phrase, mais ce qu'il voulait dire, c'est que lorsqu'il y a un pouvoir qui est élu, qui est démocratiquement élu, qui porte un programme, qui veut réaliser son programme, est-il légitime de voir des organes, ici les juges, l'empêcher de réaliser ce pourquoi il a été démocratiquement élu? C'est, je crois, un débat important. Lorsque Tocqueville est un modéré, donc Tocqueville se félicite effectivement de ce que les juges puissent être un contre-pouvoir qui va modérer des pouvoirs trop à droite, trop à gauche. Mais doit-on s'en féliciter? Je vous laisse sur ce.
Eh ben, merci beaucoup Christophe Boutin. Voilà, il nous reste 30 secondes, donc le débat aurait pu continuer longtemps. Voilà, j'espère qu'on pourra revenir sur cette loi, ne serait-ce que pour se féliciter de la manière dont elle aura été amendée par le Parlement, ou au contraire pour se désoler au moment des premières applications que toutes nos craintes n'aient pas été vaines, mais au contraire aient été prémonitoires. Merci beaucoup Christophe Boutin, merci beaucoup Lucien Rabouille, et au revoir chers auditeurs. Je vous donne bien sûr rendez-vous demain avec Arthur de Vatrigan.
Ça suffit maintenant!
Au revoir.